Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous et merci d'être à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Comme je vous l'avais annoncé lors de notre dernier numéro, le week-end de la Pentecôte a été particulièrement prolifique en événements musicaux et ce dans tous les genres. La 12e édition du festival Passe ton bac d'abord y a occupé une très large place bien sûr, mais pas seulement. Nous allons vous en dire plus avec ceux qui ont accepté de participer à cette émission, à commencer par deux de ses chroniqueurs attitrés, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et son alter ego Robert Pénavert, de retour à Mélomanie, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Ils sont accompagnés de nos invités d'honneur, Patrick Abéjean et Stéphane Delinca, les deux directeurs artistiques de l'ensemble vocal et instrumental À bout de souffle, qui s'apprête à donner son spectacle musical Mistero Buffo, d'après la pièce de Dario Fo, au théâtre Jules Julien, c'est vendredi 14 et samedi 15 juin. Nous vous expliquerons l'affaire en seconde partie de ce numéro avec Patrick Abéjean et Stéphane Delinca, parce que d'abord, c'est l'actualité musicale récente qui va primer. Nous allons revenir dessus en compagnie de Robert et Serge, voici notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie, Retour arrière.
Et comme je suis très heureux de retrouver l'ami Robert Pénavert dans cette émission, c'est avec lui que nous allons ouvrir cette rubrique en revenant sur le récital qu'a donné la mezzo-soprano Béatrice Uria Monzon vendredi dernier au Théâtre du Capitole. Elle y était accompagnée du pianiste Marcello Amaral et de notre cher et brillant guitariste toulousain Thibaut Garcia. Un retour au Capitole pour cette belle chanteuse originaire d'Agen, je le rappelle, un an après sa prestation en Lady Macbeth dans l'opéra de Verdi sur la même scène. Et là, Robert, elle a proposé avec ses deux complices un programme de mélodies quasi exclusivement espagnol auquel vous avez assisté. Comment s'en est-elle tirée ?
Alors, d'abord, une petite précision. Vous venez de dire que la mezzo-soprano Béatrice Uria Monzon, dans le programme de salle, elle est soprano. Et je pense que c'est une volonté de sa part.
Bon, mais écoutez.
Puisque, bon, très clairement, depuis quelques temps, elle a abordé les rôles d'abord Lady Macbeth, oui. Tosca, Gioconda, à Bruxelles. Donc, bon. Je pense qu'on va dire soprano maintenant, puisque c'est son souhait. Voilà.
C'est noté.
Donc, ce récital était le dernier d'une série prestigieuse cette année, puisque, je le rappelle simplement, il nous a permis d'entendre au Théâtre du Capitole rien moins que Max-Emmanuel Chentich, Marie-Nicole Lemieux, Christian Gerhaer, Mathias Gern, Stéphane de Goutte, Stéphanie Ducta, et évidemment aujourd'hui Béatrice Uria Monzon. Donc elle venait dans un programme, je pense que c'est une proposition de Christophe Gristi, j'imagine, un programme qu'on va dire ibérique, hein, puisque donc les compositeurs qui étaient convoqués, c'est Enrique Granados, Federico García Lorca, Isaac Albéniz, Agustín Barrios, Fernando Obrador, Joaquín Turina... Maurice Ravel aussi, qui s'est fait une petite place, mais dans quelque chose de très précis, puisque voilà, c'était la pièce en forme de habanera, donc on va dire que c'est espagnol. Ouais. Manuel de Falla pour terminer. Donc l'intérêt, et ça à nouveau, je pense que c'était la volonté de Christophe Gristi, c'est d'inviter Thibaut Garcia, qui est évidemment le guitariste que tout le monde connaît maintenant à l'échelon planétaire, et nous sommes très heureux qu'il ait fait une partie de ses études à Toulouse, qu'il soit toulousain, et en plus on l'a reçu à cette émission, hein, et c'est vraiment un garçon absolument adorable, charmant, sympathique, qui n'a pas du tout la grosse tête, alors qu'eux avaient moins de succès... Oui. D'autres se comportent autrement. Voilà. Et il était également en compagnie d'un très grand pianiste, Marcello Amaral. Je ne voudrais pas dire une bêtise, je crois qu'il est brésilien.
Oui.
Voilà.
Oui.
Merci Serge. Je sais que quand on parle du Brésil, oui. On peut toujours se tourner vers toi. Voilà. Alors, les trois étaient soit solistes, soit accompagnateurs de luxe, bien évidemment. Pour dire la vraie vérité, j'ai eu un peu quelques sueurs froides sur le début du concert. Parce que Béatrice Uria Monzon n'a pas eu l'air tout à fait là. En définitive, question de timbre, question de justesse. Voilà, je me demandais qu'est-ce qui lui arrivait et je l'ai retrouvé à la fin du concert. J'ai retrouvé ses qualités de timbre, de rondeur, d'émission, de projection, d'ambitus également. Là, j'ai été un peu rassuré. Alors ensuite, il y avait des parties solistes. Et donc, en particulier, Marcelo Amaral, qui a joué différents morceaux. Et puis, c'est vrai que tout le monde un peu attendait Thibaut Garcia, qui a démarré ses solos avec Asturias. Alors, évidemment, triomphe absolu. Et il a enchaîné avec la cathédrale. Et là, je voudrais dire quelque chose, parce qu'il a pris, et ça montre quelle est l'empathie que peut avoir cet artiste avec son public. Avant d'attaquer la cathédrale, en fait, il s'est adressé au public. En disant, voilà, j'ai choisi la cathédrale parce que lorsque j'étais jeune, papa jouait ce morceau. Et c'est un peu ça qui m'a appris à aimer la guitare et qui m'a poussé à étudier cet instrument. Et alors, si je l'ai choisi ce soir, c'est parce que c'est l'anniversaire de mon papa et il est dans la salle. Tu veux vous dire que les Toulousains, là, en font beaucoup moins que ça pour hurler et faire une ovation incroyable au papa, bien évidemment.
C'est Jules Garcia que l'on salue au passage.
Voilà. Ça donne le ton de ce récital. C'était un récital formidablement décontracté, avec beaucoup de complicité entre ces trois artistes, vraisemblablement. Donc, dans la cathédrale, comme dans Asturias, comme dans les parties qu'il a accompagnées, on a retrouvé le grand Thibaut Garcia, celui que l'on connaît, que l'on a entendu, je crois, dans la série Grands Interprètes.
Oui,
et qu'on a entendu également à Saint-Pierre des Cuisines.
Pendant la saison des Arts Renaissants.
Voilà, ouais. Voilà. Bon, et fort heureusement, c'est peut-être le fait qu'il soit toulousain, mais nous pouvons quand même en profiter pour l'instant, sur Toulouse. Ensuite, évidemment, bon, quand le public est content, il n'en a jamais assez. Et donc, à force de trépignement et de bis, etc., bon, les artistes sont revenus. Et ce que tout le monde attendait en définitive, c'est que dans les bis, Oria Monzon nous chante un extrait de son rôle signature également, qui est Carmen évidemment.
Oui.
Bon. Et dès que au piano, Marcelo Amaral a commencé à jouer les premières notes de cet air, qui est non pas la Habanera, mais Près des remparts de Séville. En fait, c'est une immense partie de drague, cet air-là. Hein. Alors le public, évidemment, était fou de joie. Et puis, il y a deux versions de cet air. Il y a la version que l'on chante en version concert, et puis, il y a la version authentique, celle qui s'est inclue dans l'opéra. Et là, à ce moment-là, avant la fin de l'air, apparaît Don José. Pour trois répliques, hein, mais des répliques qui montrent que finalement, boum, il a été touché en plein cœur, qu'il est fichu, le pauvre garçon.
Mais il fallait un Don José, alors.
Ouais, mais
comment on fait?
Exact. Ben voilà, et tout d'un coup, au milieu de la salle, on a une voix venue d'ailleurs, mais une très belle voix. Et il est monté sur scène et on a vite reconnu Jean-François Borras, puisqu'il était à ce moment en répétition pour Werther au Théâtre du Capitole, et qui, j'imagine, sur proposition de Christophe Gristy,
a joué les guest stars.
Joué les guest stars, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je peux vous dire que le peu que l'on a entendu nous met sur les dents pour son Werther. On en parle tout à l'heure, mais c'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et beaucoup de gens disaient, oh là là, c'était dommage qu'ils aient pas chanté au duo final. Bon, mais ça, c'est une autre affaire, bien évidemment.
Sans gourmand, hein.
Voilà. Donc, un récital qui clôture finalement très très bien cette série prestigieuse, avec des artistes internationaux, et voilà, c'est ma conclusion.
Et il y aura encore une belle série de récitals la saison prochaine Théâtre du Capitole, avec d'autres chanteurs, ou certains d'ailleurs qui sont déjà venus cette saison. Alors, je n'ai pas de mélodie espagnole chantée par Beatriz Oria Monzon à diffuser. En revanche, je vais vous proposer d'écouter Thibaut Garcia dans une interprétation de cette pièce dont vous venez de nous parler, celle qu'il a jouée vendredi dernier au Théâtre du Capitole, La cathédrale d'Agustín Barrios Mangoré. Thank you. La cathédrale, pièce d'Agustín Barrios Mangoré, interprétée par Thibaut Garcia, un des morceaux qu'il a joué vendredi au Théâtre du Capitole lors du récital de Béatrice Uria Monzón, qui l'accompagnait ce soir-là avec le pianiste Marcello Amaral. Et le même soir, c'était l'ouverture du festival Passe ton bac d'abord à Toulouse. Il y a eu une centaine de concerts et spectacles musicaux un peu partout dans la ville rose. Serge Chosy a suivi certains d'entre eux et il va pouvoir nous faire part de ses impressions et de ce qui a retenu son attention. Est-ce que ce 12e festival a été un grand cru, Serge?
Un très grand cru, avec tout de même plus de 21 000 entrées. Donc ça mobilise pas mal de
gens.
C'est toujours un peu affolant.
Il y a eu 21 000 visiteurs l'an dernier, ce qui était déjà beaucoup.
Là aussi,
21 000. Voilà, donc ça se maintient au-dessus de 20 000, ce qui est vraiment très bien.
Donc c'est encore une fois une grande réussite populaire, avec des gens qui se croisent dans la rue, qui se donnent des indications. Est-ce que vous êtes allé voir ce concert? Moi j'en viens, c'est magnifique, allez-y. Bon. Donc c'est en même temps très convivial, mais très proche des musiciens qui jouent. Alors il y avait un défi encore plus important cette année, qui concernait le sujet. Chaque année, il y a un thème. Et cette année, le thème, c'était le contrepoint. A priori, c'est un peu rébarbatif. Qu'est-ce qu'on va nous raconter? Eh bien non, ça n'a pas été du tout rébarbatif, parce que c'était extrêmement bien présenté. Le contrepoint, c'est donc une manière de composer, que Bach a porté à son apogée, en quelque sorte. Et donc, on a vraiment assisté à des concerts tout à fait étonnants, qui expliquaient, en quelque sorte, par l'acte lui-même, musical, ce qu'était le contrepoint. Alors, ça a commencé par une mise en bouche, comme d'habitude, avec Michel Brun, qui est un pédagogue extraordinaire, qui
sait
absolument présenter les choses avec beaucoup d'esprit. Et donc ça s'est passé à l'Hôtel Dieu, dans la salle des pèlerins. Et il est parvenu à faire chanter l'audience, à lui faire chanter un canon à 6 voix. Il a pu diviser l'audience en 6 parties, et donc on a tous chanté à 6 voix, donc c'était incroyable. Puis ensuite, alors il y a des tas d'événements importants, alors je suis désolé, je n'ai pas assisté aux 50 concerts.
Comment ça?
Qui étaient prévus, c'est pas bien, n'est-ce pas?
Non.
En effet. Alors 50, parce que chaque concert est répété 2 fois, il y en a 100, mais répété 2 fois. Donc 50 programmes. Alors il y en a un qui était vraiment intéressant, c'était l'exécution intégrale des préludes et du clavier bien tempéré, 48, je le rappelle, par 48 élèves du conservatoire, répartis en plusieurs concerts. Évidemment, il y avait 6 préludes et fugues par concert, puisque chaque concert dure une demi-heure à peu près. Et c'était très touchant. On avait des petits élèves, tout petits, blondinés, qui venaient donner leur version. Donc c'était vraiment très intéressant. Ensuite, il y a eu des invités tout à fait de haute qualité, puisqu'il y avait notamment un ensemble toulousain bien connu qui s'appelle Les Sacqueboutiers, qui présentait 2 séances à la fois musicales et pédagogiques, et qui expliquaient par la bouche de Philippe Canguilhem, qui est le musicologue de l'ensemble et instrumentiste de grande qualité, qui joue la chalumie en particulier. Et donc il a vraiment expliqué avec des projections comment Bach, par exemple, avait conçu ses fugues de l'offrande musicale, par exemple, ou du clavier bien tempéré, avec des illustrations tout à fait amusantes, avec des partitions qui tournaient pour indiquer que une voix est superposée à la voix inversée qui commence par la fin et qui est superposée avec celle qui commence par le début. Enfin bon, toute une démonstration tout à fait intéressante. Autre ensemble de grande qualité qui était invité, il était déjà présent l'année dernière, c'est la Fenice, qui est fondée et dirigée par Jean Tubéry. Et à la chapelle des Carmélites, alors il a réalisé une séance d'investigation de la dualité sacré-profane de Bach de manière complètement délirante. Vraiment, ça, toute la salle était vraiment ahurie, parce que c'était à la fois comique, sérieux et très musical. Alors à l'occasion, Jean Tubéry a joué non seulement du cornet à bouquin, mais des flûtes. Et puis il a chanté avec une voix de contre-ténor et puis avec une voix de baryton aussi. Donc c'était l'homme orchestre, ça a été tout à fait intéressant. Et puis il y a eu une autre séance qui se déroulait au cloître des Jacobins, qui était appelée donc l'offrande musicale du titre général de la 12e édition. Autour de l'offrande musicale, alors là ça a duré près de 2 heures. Celle-là, c'était un grand concert avec l'ensemble baroque aussi, puis avec des danseurs, avec une installation vidéo. Et c'était impressionnant. Par exemple, les danseurs dansaient sur un des Richard et de l'offrande musicale, joué par les musiciens. Et donc, leur danse était faite là pour éclairer de manière visuelle ce qui se passe dans le texte musical de Bach. Et puis, dans le réfectoire des Jacobins, il y avait un ensemble de 6 écrans vidéo qui illustrait visuellement le Richard Carr à 6 voix, comme par hasard, de l'offrande musicale. Donc c'était vraiment très 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 intéressant et très novateur en quelque sorte. Et puis enfin, le dernier, évidemment, ce qui a attiré le public le plus nombreux, c'était la messe en si mineur donnée à la Halograin le dimanche en fin d'après-midi, en quelque sorte le grand œuvre d'une vie de compositeur, hein, de Bach, qui, rappelons-le, n'a jamais pu l'écouter intégralement, son œuvre. Et donc ça, c'était vraiment l'apothéose, en quelque sorte, du contrepoint pour chœur, soliste et orchestre. Et là, ben, on a eu une très belle exécution de cette messe en si, avec un tempo très, très vif, hein, évidemment de Michel Brun, notamment le Kyrie au début, il l'a pris avec vraiment comme une marche, mais une marche vive, hein, animée. Donc, ça bougeait beaucoup. Et puis, on a eu quatre vraiment excellents solistes avec Clémence Garcia et Anne-Laure Touya, les deux sopranos. Et puis, Caroline Champitursan, que l'on connaît bien aussi, oui, mezzo-soprano. Un excellent baryton en la personne de Philippe Estef. Et puis, alors, un ténor que l'on découvrait ici à Toulouse.
Et apparemment, Mathia... c'est la grande révélation du week-end, si
tout
tu
à
l'as
fait
compris.
Ah ben pour moi, oui. Mattia Pelosi, un Italien, qui a d'abord un timbre de miel incroyable, un timbre d'une beauté extraordinaire, un raffinement du phrasé, des couleurs, une aisance aussi bien dans les aigus pianissimo que dans les graves, et une musicalité avant tout formidable. Je crois que je n'ai jamais entendu un Benedictus aussi bien chanté que par lui, donc c'était vraiment formidable. Et puis, je voudrais quand même qu'on rende grâce à un instrument particulier qui ne joue qu'une fois et qui en général... Alors, c'est un instrument qu'on qualifie quelquefois de boîte à pain. C'est le cor naturel.
Oui.
Et on voit pourquoi.
Oui.
Alors, dans le fameux air cognam de la basse, combien de fois on l'a entendu avec une succession de canards.
C'est redoutable.
C'est redoutable.
Pour le musicien.
Eh bien là, le musicien, dont je n'ai pas le nom hélas, a magnifiquement joué ce solo de cor, au cor naturel évidemment. Puis il y avait les trompettes naturelles aussi qui ont effectivement là aussi donné tout ce qu'ils sont capables de donner. Là aussi c'est périlleux, hein, pour les trompettes naturelles, sans piston évidemment. C'était un très beau moment et donc on a pris volontiers rendez-vous pour la 13e édition de Passe ton bac d'abord en 2020.
C'est toujours le même plaisir.
Ouais.
Et pour illustrer votre propos, et pour revenir une dernière fois sur cette 12e et encore très réussie édition de Passe ton bac d'abord, nous allons réécouter un petit extrait de la si belle messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété bien sûr par l'ensemble baroque de Toulouse. Petit extrait de la messe en si de Jean-Sébastien Bach, interprété par l'ensemble baroque de Toulouse, qu'il a donc donné dimanche à la Lograin, en clôture de la 12e édition du festival Passe ton bac d'abord. Le lendemain de cette interprétation de la messe en si, au même endroit, a eu lieu un concert de l'Orchestre National du Capitole dirigé par Tougan Sokiev. Il était dédié à la grande musique romantique russe, avec un programme d'œuvres de Borodine, Rachmaninov et Moussorski. Aux côtés de l'Orchestre National du Capitole, le baryton Gary Magui et le chœur du Capitole. Dans la salle, toujours fidèle au poste, Serge Chosy, mais aussi Robert Pénavert. Alors Serge, peut-être rappelez-nous d'abord les œuvres qui ont été jouées.
Oui, alors en début de concert, ils ont d'abord joué la cantate de Rachmaninov, qui s'appelle Le Printemps, et qui est une cantate que Rachmaninov a écrite sur un poème de Nicolas Nekrassov, qui s'appelle La Forêt Verte. Il a modifié le titre, c'est une espèce de poème pour chœur, baryton solo et orchestre, qui traite un peu de la jalousie, de la pulsion de meurtre, enfin c'est très dramatique au début, et puis l'arrivée du printemps transfigure tout ça, hein, un hymne au pardon en quelque sorte. Donc c'est une très belle œuvre, moi que j'aime beaucoup. Le début rappelle ce fameux poème symphonique composé par Rachmaninov en 1909, L'île des morts. Ce magnifique poème avec cette espèce de nostalgie, de beauté, d'atmosphère un peu impressionnante. Donc c'était une très belle exécution. Le chœur chantait évidemment en russe, c'était le chœur du Capitole, hein, donc qui avec conviction, mais je ne suis pas capable de qualifier
la prononciation. Juger la prononciation, ça.
Non, pas du tout. Ça a été très bien. Le baryton, un très beau timbre vocal. Parfois, il était en compétition avec les vagues orchestrales de La Vengeance, mais ça, c'est inévitable. Hein. Mais un beau pouvoir expressif, et c'était très bien fait. Le chœur a très bien chanté, l'orchestre a magnifiquement joué, donc c'était une belle introduction qui a été suivi, là, cette fois, par une œuvre extrêmement populaire, puisqu'il s'agissait des danses polovtiennes extraites de l'opéra Le Prince Igor de Borodine. Donc, alors là, ça changeait évidemment radicalement d'atmosphère, avec cette ouverture fébrile et puis les chœurs qui se succèdent pour les danses, avec une exécution tout à fait dynamique, qui a évidemment déclenché tous les applaudissements nourris. On a retrouvé les fameux thèmes. Alors, pour certains plus anciens, c'était des thèmes qui rappelaient des choses tout à fait incroyables, notamment la publicité pour Kléber Colombe, déjà, à une certaine époque, oui, c'était particulier. Et puis, le fameux « Étranger au paradis », chanson qui fut populaire en son temps, et qui pillait la partition de Borodine. Donc, on a retrouvé et ça.
Chanté par Gloria Lasso.
Gloria Lasso.
Le dire.
Oui.
Faut pas avoir honte, on l'a connue.
On l'a connue.
Moi aussi, j'ai connu Gloria Lasso. Mais elle chantait plus, déjà.
Il
s'agit d'autre.
Ah ben d'accord, tu nous renvoies à nos siècles passés.
Mais non, l'approche, je l'ai connue aussi.
D'accord. Voilà, c'était la première partie. Et la seconde partie est entièrement consacrée à une œuvre que l'orchestre a l'habitude de jouer. Les tableaux d'une exposition, évidemment, la partition de Moussorgski, bien sûr dans l'orchestration de Maurice Ravel. Donc on a eu droit à la dizaine de tableaux qui se succèdent avec la promenade. L'orchestre est extrêmement à l'aise dans cette œuvre. Hein. Tougantsoukiev, c'est son œuvre aussi. Hein. Donc, c'est une œuvre russe, mais avec la French Touch de Maurice Ravel. Donc vraiment, ça a été magnifiquement joué. Il faut remercier, féliciter les solistes, parce qu'il y a des passages solistes extrêmement périlleux. À commencer par la trompette, qui ouvre à découvert le fameux thème de la promenade. Et là, je voudrais vraiment désigner le trompettiste, qui est Hugo Blacher, et qui a magnifiquement joué. Il a aussi une partie terrible à jouer dans les deux juifs, hein, le fameux tableau des deux juifs. Donc, et là, c'était magnifique aussi. Donc, bravo. Puis, il y a le saxophone aussi, qui a un rôle important dans le rôle du troubadour, en quelque sorte, dans le château. Et puis, le solo de tuba, dans Bidlo, hein, le fameux chariot. Tout ça, c'était vraiment très, très bien joué, avec l'apothéose que constitue bien sûr la grande porte de Kiev, qui a entraîné des ovations du public à n'en plus finir. Ovations tellement prolongées que nous avons eu droit, chose rarissime,
à un bis de l'orchestre.
Mais oui, à un bis. Et là, on a changé complètement d'atmosphère avec la première gymnopédie d'Éric Satie dans l'orchestration de Debussy. Alors là, c'était le rêve, c'était parfait avant la nuit d'avoir ce...
Bon, Satie, le petit lien avec la Russie, c'est les ballets russes, mais bon...
Oui. Mais bon, donc vraiment très beau concert.
Robert Penavert, vous étiez présent, alors je suppose que vous voulez me faire part de...
Juste de passage, il y avait Serge, donc j'étais tranquille.
Oui, mais je ne pense pas que vous ayez laissé traîner une oreille distraite pendant le concert.
Alors, simplement, je voudrais dire que Serge a tout dit, merveilleusement bien, comme d'habitude. Si tu permets que je souligne que j'étais particulièrement ravi de retrouver les chœurs du Capitole en grande forme.
Oui.
Parce que la dernière fois que je les avais entendus à ce lieu, c'était la damnation de Faust, une damnation de Faust qui m'a laissé vraiment un souvenir pénible.
Nous nous en étions fait l'écho, d'ailleurs.
Voilà. Ouais. Et là, j'étais très heureux de le retrouver dans une forme extraordinaire, champion du monde. Là, c'était formidable.
Comme on les retrouve à chaque fois lors des opéras au Théâtre du Capitole, où ils sont extraordinaires.
Mais en fait, quand on les entend, c'est encore mieux. Et voilà, je voudrais le souligner, ça.
Oui, tout à fait. Et rendons grâce à Alfonso Cayani, qui est le chef de chœur, qui les prépare.
Donc ça, je pense que c'était important de le dire.
Eh bien, pour terminer cette première partie d'émission, nous allons écouter un extrait d'une des pièces qui était au programme du concert de lundi dernier à la Halle au Grain, la danse générale des danses polovtiennes du Prince Igor d'Alexandre Borodine, interprétée par l'Orchestre National et le Chœur du Capitole sous la direction de Tougantsoukiev.
Oh!
la danse générale des danses polostiennes du prince Igor d'Alexandre Borodine, une version de l'Orchestre National et du Chœur du Capitole dirigé par Tougansokiev, avec laquelle nous concluons cette première partie d'émission. Après une petite pause d'une minute, nous retrouverons Serge Chosy, Robert Pénavert et nos deux invités d'honneur, Patrick Abéjean et Stéphane Delinca, pour parler avec eux de Mistero Buffo, le spectacle musical de l'ensemble À bout de souffle. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et avec nos deux invités d'honneur, Patrick Abéjean et Stéphane Delinca, co-directeur artistique de l'ensemble vocal et instrumental À bout de souffle.
Mélomanie. L'agenda.
L'ensemble vocal À bout de souffle présente donc sa version de Mistero Buffo de Dario Fo au théâtre Jules Julien de Toulouse. C'est vendredi 14 juin à 20h30 et samedi 15 à 17h et 21h. Un spectacle mis en scène par Patrick Abéjean avec une direction musicale de Stéphane Delinca. Nous allons parler de Dario Fo et de sa pièce dans quelques instants. Avant cela, messieurs, je vais vous demander de faire une petite présentation de la formation que vous dirigez conjointement et qui, ces dernières années, si je ne me trompe, s'est surtout illustrée dans le répertoire baroque, notamment celui de l'opéra anglais et français, entre autres, mais pas seulement.
Entre autres, mais pas seulement, en effet. L'ensemble À bout de souffle donc est composé d'instrumentistes et de chanteurs. Il contient aussi un chœur, le chœur À bout de souffle. En effet, on s'est spécialisé dans l'opéra et l'opéra baroque. Dernièrement, donc, on avait monté en effet The Fairy Queen. Il y a 10 ans, on a monté Platé. Dernièrement, Actéon de Charpentier, Anacreon de Rameau. Et nous préparons encore d'autres choses dans ce répertoire-là, parce qu'on aime beaucoup aborder le répertoire français. Mais il est vrai qu'on alterne aussi avec des programmes de concerts comme le Stabat Mater de Poulenc qu'on avait donné, Stabat Mater et Gloria de Poulenc à la Lograin en 2016, et aussi des programmes comme un programme assez original qu'on avait donné autour de Monteverdi qui s'appelait Maintenant que le ciel, sur la polychoralité et les chœurs de la Renaissance, et dernièrement le Magnificat de Bach et Dies Irae de Lalande qu'on a créé fin 2018 et qu'on va redonner l'été prochain.
Donc formation à géométrie variable, on peut dire ça d'À bout de souffle.
Exactement. Après, depuis maintenant quelques années, on a quand même l'orchestre qui a ses éléments...
Ses piliers.
Ses piliers, tout à fait. Le chœur est assez stable aussi. Et après, avec les solistes, en fait, au gré des créations, on travaille avec des gens de la région, mais pas que. On va chercher, écouter avec Patrick des nouvelles personnes dans la France entière en fonction de ce dont on a besoin.
Alors, comment vous travaillez tous les deux ? Parce que ça m'intéresse, évidemment. Comment vous choisissez les œuvres que vous portez sur scène ? Est-ce qu'il y en a un qui, en général, apporte les œuvres et les propose à l'autre, ou est-ce que chacun apporte sa pierre à l'édifice ?
Alors, ça dépend des programmes. On travaille ensemble, évidemment. Comme le disait Stéphane, là, on s'est un peu resserré sur l'opéra français parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait envie de travailler vraiment à partir des textes et que ça simplifiait beaucoup les choses avec les interprètes, qu'ils soient chœur ou solistes. Donc déjà, c'est une étape de gagner, de bien s'emparer de ce qu'on a à raconter, de la tragédie ou de la comédie en question. Puisqu'on vraiment on travaille en collaboration. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le théâtre. Et donc, c'est vraiment texte et musique, et pour nous, notre projet, c'est avec le chœur et encore une fois, et avec les solistes, de vraiment mêler l'un et l'autre et de nourrir le texte de la musique et vice-versa. Et donc, a priori, sur le choix des œuvres, On aime bien la fantaisie. Donc la fantaisie, c'est pour ça qu'on avait commencé par Platé. Alors moi, j'avais un souvenir, je ne sais plus exactement qui des deux a amené Platé, mais j'avais un souvenir de cet opéra qui est drôle, évidemment. Fairy Queen, qui était donc en anglais, fait aussi partie de la fantaisie shakespearienne et de la magie et de l'illusion. Donc on aimait bien cet univers assez décalé. Sur Actéon, on était vraiment dans un drame. Et là, c'est difficile de trouver des œuvres drôles, des comédie avec vraiment une dramaturgie. C'est-à-dire que quelquefois, les divertissements sont... Alors, on écoute, on cherche, mais les divertissements manquent souvent de dramaturgie. Donc, ça nous intéresse moins, mais on cherche et on trouve.
Ce qui nous plaît beaucoup, c'est aussi que le chœur est un rôle important scéniquement au niveau dramaturgique. Parce qu'on travaille maintenant avec une équipe, comme je disais tout à l'heure, il y a un noyau dur et il y a des gens qui ont une énergie fantastique sur scène. On travaille le chant, on travaille le théâtre, on travaille la danse. Et donc ça, c'est un élément important dans le choix des œuvres. Et en effet, comme le dit Patrick, on a envie aussi de se consacrer encore plus à l'opéra français, à la musique française. Dernièrement, avec le De La Lande, on a un orchestre qui sonnait magnifiquement bien dans la musique française. Donc j'ai voulu garder les mêmes éléments pour continuer encore à explorer cette musique française. Et puis moi, je travaille aussi beaucoup avec Pascal Duc, qui est le conseiller musical aux Arts Florissants, et qui sont eux aussi spécialisés dans cette musique-là. Donc c'est vrai qu'il me transmet aussi beaucoup de ce plaisir et je pense qu'elle n'est pas assez connue, et notamment Rameau, qui pour moi mérite autant que Mozart d'être joué. Et je pense qu'à un moment donné, la France a boudé ces compositeurs-là. Bon, on n'est pas les seuls, bien sûr, mais je pense qu'il est grand temps, Jean-Marc fait le même travail avec Les Passions, de porter cette musique-là qui est notre patrimoine et qui est
de
trésor.
Alors, on en arrive à votre dernière création. Et là, à première vue, il s'agit d'autre chose. Mistero Buffo de l'italien Dario Fo. Alors, je rappelle que Dario Fo est mort en 2016, donc c'est vraiment un auteur contemporain. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1997. Et d'ailleurs, à l'époque, ça avait fait couler pas mal d'encre. Qu'est-ce qui vous a attiré chez cet auteur et pourquoi vous avez voulu porter sur scène, en musique, précisément cette pièce-là ?
Alors c'est un concours de plein de circonstances qu'on va pas développer parce que voilà. Dario Fo, donc on avait envie de travailler sur le thème de la passion. Donc évidemment, le thème de la passion en musique, il y a de quoi faire. Et je me suis souvenu de ces pièces tirées de Mistero Buffo, de ces scènes tirées de Mistero Buffo. Alors, Mistero Buffo, c'est un recueil de monologues et de scénettes. Dario Fo, qui est, comme vous l'avez dit, un auteur de la deuxième partie du XXe siècle en Italie, spécialisé dans la commedia dell'arte contemporaine, sachant que cet homme était... communiste anarchiste, voilà, très polémique, avec des œuvres très politiques, qui a écrit des pièces fabuleuses, extraordinaires. Jacques Nichet a monté et tourné beaucoup Faut pas payer, qui était très très réussi. Voilà, c'est très drôle. Alors, le travail de Dario Fo, c'est de s'emparer, de parler de problèmes sociaux, de choses qui peuvent paraître ardues, difficiles, difficiles. Et Dario Fo arrive à porter un message en faisant rire les gens aux éclats. Donc ça, c'est les grandes pièces de Dario Fo. Mistero Buffo, il s'est inspiré des mystères du Moyen-Âge. Donc les mystères du Moyen-Âge étaient une forme théâtrale qui était jouée dans les rues, devant les églises, devant les cathédrales, qui était une sorte de bande dessinée, puisque soit les scènes étaient sur des chars, soit les gens déambulaient, mais chaque scène, donc c'était évidemment des thèmes religieux, qui complétaient ce qui était sur les vitraux, enfin qui édifiaient le peuple qui ne... pour la plupart, ne lisaient pas. Donc, cette pièce était édifiante. Voilà. Donc, Dario Fo s'est emparé de cette histoire-là pour réécrire à sa sauce donc des scènes. Et en l'occurrence, il y a quatre scènes qui s'appellent « Scènes de la passion ». Donc, une scène qui s'appelle « Le fou et la mort », où le personnage emblématique du fou de théâtre, donc de théâtre populaire, rencontre le personnage allégorique de la mort, qui justement vient chercher le Christ. Ensuite, il y a une scène avec Marie et ses amis qui se rendent compte que le Christ a été arrêté. Ensuite, il y a une scène de crucifixion, voilà, traitée à la Dario Fo, et Marie au pied de la croix, donc la dernière scène qui donne lieu évidemment à un Stabat Mater.
Parce que voilà, notre idée en effet était de jouer cette pièce-là du début à la fin, enfin ces quatre scènes, et de les mettre en regard de pièces sacrées, alors du répertoire baroque quasi essentiellement, mais pas que, parce que c'est cette musique-là, moi, qui je trouve exprime le mieux la tragédie de cette histoire, de la passion. et de les mettre en regard, qu'elles prennent le relais de l'émotion et qu'elles soient comme un lien entre ces quatre scénettes. Mais pour jouer aussi sur cette référence, on trouvait intéressant de ne pas utiliser forcément des instruments baroques, mais de l'accompagner à l'accordéon. Et aussi parce qu'on a pensé, bien sûr, à l'accordéoniste qui serait capable et qui ferait ça merveilleusement bien. Et c'est Grégory Daltin, avec qui c'est un plaisir d'adapter, de chercher des sonorités pour accompagner ces pièces-là, ces pièces vocales.
Oui, et puis c'est un musicien qui n'hésite pas à s'aventurer sur des terrains que, a priori, on ne semblerait pas fait pour un musicien comme lui.
Alors oui, mais l'accordéon a cette multiplicité de timbres qui fait qu'on ne peut pas avoir quasiment l'imitation d'un orgue de continuo, un orgue baroque, et puis on va jusqu'au grand orchestre musette.
Donc un seul instrumentiste.
Un seul instrumentiste,
scène,
tout à fait.
Le chœur à bout de souffle.
Tout à fait.
Mais aussi beaucoup de comédiens.
Bien sûr.
Alors qui sont ces comédiens?
Donc on a 50 choristes qui sont aussi comédiens puisqu'ils jouent le peuple. Alors dans les scènes de Dario Fo, ce qui est aussi assez organique et assez facile à mettre en œuvre avec le chœur, il y a évidemment la foule. Donc en mode théâtre, je ne pense pas qu'on ait 50 figurants, alors que là on a 50 choristes qui vraiment jouent une foule impliquée qui participe aux événements. Et donc les comédiens, nous avons rencontré 8 comédiens du conservatoire qui sont en cycle d'orientation professionnelle. Donc ce sont des comédiens en fin d'études, ils ont entre 20 et 27 ans, ce ne sont pas des enfants. Et donc avec Pascal Papini,
Le responsable pédagogique de département théâtre du conservatoire Réunion régional de Toulouse, je le précise.
On a monté ce projet, donc on a 8 comédiens fabuleux et une comédienne plus mature qui est Domi Giroux pour jouer le rôle de Marie, donc la mère. Voilà. Ben, alors la rencontre avec le chœur et ces jeunes gens comédiens pleins d'énergie est vraiment fantastique parce que, comme on vous l'a dit, vraiment, on met l'accent sur la théâtralité du chant. Et là, on a des comédiens. Donc, c'est vraiment une vraie rencontre où nos choristes prennent conscience de l'énergie d'un comédien, comment on s'empare d'un texte, etc. Et c'est vraiment fabuleux. Donc, on travaille depuis 3 mois avec eux. Et c'est vraiment un spectacle. Là, ça commence là tout de suite, maintenant. Mais on travaille depuis assez longtemps. Là, ces derniers 15 jours, un peu non-stop. Et on est content de ce qui se passe. C'est vraiment un beau spectacle plein d'humanité et drôle.
Et ce travail théâtral donne aussi à cette musique-là une couleur qu'on cherche beaucoup avec Patrick sur la musique, quand on aborde la musique sacrée, c'est de donner une signification plus humaine, puisque c'est ce que fait Dario Fo dans sa interprétation des scènes de la Passion. Et du coup, ça donne à un credo, à un crucifixus, à un stabat mater, oui, une vie, une humanité fantastique.
L'humain et le trivial. C'est le travail de Dario Fo sur l'écriture. C'est-à-dire que il rend les choses. Marie et ses amis vont au marché, rendent du marché. C'est vraiment la relation, ce qu'a pu faire Emmanuel Carrière dans Le Royaume, c'est-à-dire faire entendre, faire comprendre, faire lire l'humanité et le trivial des situations. Donc les apôtres sont une bande de types qui sont des pêcheurs. Donc on a des clins d'œil à ça dans le spectacle. Vous verrez la pêche et ce qu'on mange.
Serge Chauzy.
Oui, simplement, j'aimerais savoir quels sont les compositeurs qui sont convoqués.
J'allais y venir, bien sûr. Et les œuvres.
Pour illustrer.
On peut laisser quelques surprises, mais on a puisé dans la musique plutôt 18e allemande et italienne. Donc en fait, grosso modo, Vivaldi et Bach sont vraiment les deux compositeurs qui sont le plus représentés. On donne un extrait du Stabat Mater de Pergolesi, de celui de Vivaldi, on puise aussi dans le Credo de Vivaldi, le 592, et aussi dans les Deux Passions, il y a un extrait de la Saint-Jean, un extrait de la Saint-Matthieu, il y a un ou deux autres petits extraits, mais je laisse aussi les gens le...
Mais est-ce qu'il y a aussi Michel Richard de Lalande un petit peu?
Oui, il y a un petit français qui s'est immiscé aussi dedans, oui, pour l'utilisation, parce que de Lalande a réutilisé il est question bien sûr de mort pendant toute cette Passion. Et de Lalande a réutilisé le Dies Irae grégorien, qu'il a harmonisé, ce qu'avait fait aussi Lully, et beaucoup de compositeurs fin 17e. Et donc on utilise à un moment donné, on réinterprète le Dies Irae de Lalande, en effet.
Alors, sans tout dévoiler, comment ça s'articule, comment ça alterne entre la musique et le texte de Dario Fo?
En fait, c'est assez...
Fluide.
Fluide, oui, oui.
Tout se passe très bien.
Non. C'est vraiment...
Étonnamment, oui.
Oui, oui.
Mais ça paraît pas simple comme ça, vu de l'extérieur.
Non, l'idée était quand même de laisser... l'articulation du texte fonctionne très bien comme ça. Donc l'idée n'était pas ni de dénaturer, ni de... C'est juste à un moment donné qu'il y a un relais qui est pris par la musique. Et en effet, vu que c'est quatre scénettes, ça permet de créer aussi du lien entre ces scènes. Et c'est ça le but principal. Et ces chœurs qui, comme dit Patrick, sont vraiment la foule, sont vraiment présents dans le jeu, à un moment donné aussi prennent parole.
On parle de la même chose, c'est-à-dire que Dario Fo s'empare des situations de l'évangile, de la passion. Donc lorsqu'on prend la passion de Bach, on prend un extrait vraiment tout à fait approprié vers Nicht. Vraiment, ça, c'est la foule crie, ce qu'entend Marie, elle entend une foule crier contre un type, elle comprend pas ce qui se passe, ses copines lui disent mais non, n'y va pas, il se passe rien, etc. Et c'est vraiment, donc on a
moment de la passion,
dans la pièce de Dario Fo, c'est des gens qui hurlent au fond, et nous, on a vraiment utilisé, étiré un petit peu, on s'est un peu amusé là-dessus. C'est la seule chose qu'on a un peu étiré. Et ensuite, la thématique, ça trouve sa place assez naturellement dans le jeu, en commentaire. Alors, c'est aussi, Dario Fo était un brechtien invétéré.
Entre autres.
Donc, c'est vraiment aussi comme dans le théâtre brechtien, ça vient le peuple vient raconter, vient se justifier aussi par rapport à ce qui vient de se passer ou vient nous donner un commentaire plus émotionnel.
Et parmi ces gens du peuple, il y a certaines voix solistes aussi qui émergent. Et là, on a continuer notre partenariat avec le Conservatoire de Toulouse, et cette fois-ci avec les classes de chant, celles de Jacques Schwartz et de Anne Fonteville. Donc on a deux élèves en fait, l'une qui est chez Anne et l'autre qui est chez Jacques, Claire-Lise Bouton et Martin Keval, qui donc ont chacun un solo et font partie aussi du chœur.
Alors j'ai regardé sur le site d'À bout de souffle, comment vous présentez donc ce spectacle, et j'ai lu quelque chose qui m'a interpellé, comme on dit, un spectacle sur la passion pour éprouver la brutalité de l'événement lorsqu'il passe par ceux qui le vivent au présent et qui les dépassent.
Exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment l'écriture de Dario Fo. C'est comment l'être humain, ce qui arrive au Christ, et comment les gens qui sont autour ne comprennent pas.
Ouais.
Et donc ça c'est passionnant. Mais c'est vraiment... Donc par hasard, j'ai lu Le Royaume
d'Emmanuel
Carrère. Et c'est vraiment ça. Et alors, le fou aussi vient... C'est une blague qu'on fait assez souvent, enfoncer le clou. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi le fou veut décrocher Jésus. Et Jésus lui dit, mais non, mon destin, c'est ça, je dois faire ça. Et le fou ne comprend pas, dit, mais t'es encore plus fou que moi. Voilà. Et ainsi de suite. Et le rapport, bon, ça c'est aussi dans l'écriture, mais le rapport entre le fils et la mère est un rapport très humain, très, très joli, très beau, très émouvant, parce que c'est l'humanité. Après, Dario Fo est un peu grinçant sur certains endroits, il s'amuse un peu. Alors, il connaît parfaitement l'Évangile, il connaît vraiment les situations par cœur, donc rien n'est au hasard et tout est étiré vraiment à l'extrême. Mais bon, les crucifieurs sont un peu provocateurs, la scène de la crucifixion, et tout ça, mais tout ça sans être, à mon avis, blasphématoire. C'est vraiment, on tire vers l'humanité et vers la trivialité et le concret des situations. Et ce qui donne beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que le
contraste, oui.
Et oui.
Et bien sûr. Allez, on va écouter l'ensemble À bout de souffle. Voici un extrait du Dies Irae de Michel Richard de Lalande. Il s'agit précisément de l'introduction. introduction du Dies Irae de Michel Richard Delalande, interprété par l'ensemble À bout de souffle. Avant de repasser la parole à Robert Pénavert pour qu'il nous présente Werther au Théâtre du Capitole, je crois que vous vouliez annoncer les concerts de l'été de l'ensemble À bout de souffle dans notre région, et c'est en août que tout ça va se passer.
Tout à fait. Donc l'extrait que vous venez d'entendre a été enregistré à Audi Sud, qui est notre partenaire coproducteur sur ce programme également. Dies Irae de Delalande, donc à découvrir, et le Magnificat de Bach. Et cet été, on ajoute aussi Magnificat et Credo de Vivaldi. Donc on fait un voyage Italie, France, Allemagne, avec trois concerts au mois d'août. Le 11 août, au festival de Sylvanès, à l'abbaye de Sylvanès en Aveyron.
Ouais, c'est le festival musique sacrée, musique du monde.
Tout à fait. Le 14, au festival Labyrinthe en Rouergue, à Villefranche de Rouergue. Et un concert exceptionnel à Toulouse, à l'église Saint-Exupère, le 13 août. Les places seront en vente sur le site Festic. Je vous invite à tout de suite réserver vos places pour le 13 août à Toulouse. Il n'y aura pas grand-chose à faire, il faudra venir voir le Dies Irae de Delalande.
Voilà, alors donc, juste pour préciser les horaires.
Et Magnificat.
Dimanche 11 août à l'abbatiale de Sylvanès à 17h, le mardi 13 août à l'église Saint-Exupère de Toulouse à 20h, et donc le mercredi 14 août à la collégiale de Villefranche-de-Rouergue à 21h. Et donc nous allons terminer cette seconde partie d'émission avec celui qui a ouvert la première partie, Robert Pénavert. Très impatient, vous vous en doutez, de nous présenter la production de Werther, l'opéra de Jules Massenet, qui va clore la saison 2018-2019 du Théâtre du Capitole. Six représentations du 20 juin au 2 juillet de ce drame lyrique inspiré du célèbre roman épistolaire de Goethe, dont la création a eu lieu en 1892 à Vienne. Et pendant que je parle de la création de l'opéra en 1892, combien de fois a-t-il été donné au Théâtre du Capitole? Monsieur la mémoire vivante de l'opéra à Toulouse.
C'est ça,
oui.
C'est ça. Bon, en fait, il fut une époque où c'était donné tous les ans, plusieurs fois par an. Werther faisait partie de ces œuvres qui servaient aux fameux trois débuts. Et c'est là que l'on éprouvait les mezzos et les ténors, où le public toulousain était d'accord ou pas d'accord pour que la dame ou le monsieur rentre dans la troupe du Capitole pour un an. Et donc Werther faisait partie de ce répertoire, au même titre qu'Hérodiade, que Sigurd, que etc., etc., etc. Donc en fait, ça a été donné des centaines de fois au Théâtre du Capitole. Alors, on ne va pas remonter quand même à l'Antéchrist, nous allons remonter à 19... Oui, on aurait pu le faire en termes de liaison.
Au Christ, mais, dire, à l'Antéchrist.
Bon, franchement, bon, l'Antéchrist, non pas quand même, mais je n'ai pas osé. Alors en fait, on va remonter simplement il y a 12 ans, en 1997, lorsque cette production...
22 ans,
oui. Lorsque cette production a été créée au Théâtre du Capitole, dont c'est une mise en scène Nicolas Joël, qui à l'époque était directeur artistique du Théâtre du Capitole, dans les décors du regretté Hubert Monloup et dans les lumières de ce magicien des lumières qui est Vinicio Kelly. Et c'est une très belle production ultra classique, avec un tableau final qui se passe dans de pseudo-ruines antiques. Enfin, c'est très beau. Moi, franchement, j'aime beaucoup parce que la place est donnée à la musique, au chant, au sentiment, à l'ambiance. Voilà, c'est très bien. C'est pas du Varlikovski, c'est pas du... Voilà, mais place à l'opéra. Et c'est très bien. Et ça, Nicolas Joël sait très bien le faire. Et c'est un homme très respectueux des œuvres qu'il aborde. Alors, évidemment, les interprètes qui se sont succédés, puisque ce n'est pas la première fois que cette production est reprise, n'ont pas été légion, bien sûr, mais enfin, il faut inciter le premier... qui a traîné cette production, c'était rien moins que Roberto Alagna, qui faisait ses débuts également dans le rôle. Dans mon souvenir, il était très bien. A suivi, alors lui malheureusement il a disparu de la circulation et c'est bien dommage, un jeune ténor américain, Stephen Mark Brown, qui était en alternance avec lui, et il y avait deux Charlotte et deux Werther, et qui a été, mais littéralement somptueux, il était le personnage, dès qu'il arrive, je ne sais si je veille ou si je rêve encore, etc. Bon voilà, il était complètement Werther, vraiment c'était le héros goethéen, et puis malheureusement ce ténor, qui vocalement était aussi merveilleux, il a disparu, je ne sais trop où, on l'a j'avais plus revu, c'est vraiment dommage. Alors cette année, ben, nous avons également, alors ça c'est pas une prise de rôle pour lui, puisque c'est un ténor qui s'appelle Jean-François Borras, et en fait qui est son Werther est connu un peu partout de Vienne à New York. À New York, il était en doublure de Jonas Kaufmann, et c'est la première fois qu'il chante Werther en France. Il le fait au Théâtre du Capitole, et nous sommes très heureux évidemment de l'accueillir et de l'entendre. Voilà, sa Charlotte sera Karine Dehé. Alors nous devions avoir Philippe Estef, dont Serge a parlé tout à l'heure en termes extrêmement élogieux, prestigieux, mais il a disparu de la distribution et nous avons Andrei Bauer qui sera très certainement un Albert tout à fait remarquable. Et nous allons, pour ma part du moins, je vais découvrir une jeune soprano québécoise qui a un joli nom, je trouve, un nom très lumineux, très mélodieux, qui s'appelle Florie Valiquette. Ça, il n'y a que des Québécois.
Oui, ça sonne effectivement ça, québécois, mais... le nom de famille en tout cas. Oui.
Voilà. Et nous allons, on va la découvrir dans le rôle évidemment de Sophie. Alors je veux dire quand même quelque chose avant de terminer, c'est que cet opéra sera dirigé par quelqu'un que l'on connaît très bien à Toulouse, c'est Jean-François Verdi. Alors pourquoi nous le connaissons? Parce qu'il a été clarinettiste à l'Orchestre du Capitole, oui. À l'époque Michel Plasson. Il continue d'ailleurs, il a été ensuite clarinette super soliste, je crois, à l'Opéra de Paris. Il continue, je pense, sa carrière d'instrumentiste, mais également il est chef d'orchestre et nous allons évidemment le voir à la baguette pour ses reprises.
Pour diriger l'orchestre, les musiciens de l'Orchestre National du Capitole, voilà, dans la fosse.
Dans certaines, on joue avec lui.
C'est probablement, oui, il est parmi les plus anciens. Oui,
il va retrouver des camarades, j'en suis sûr. Voilà, donc c'est une reprise qui est évidemment axée, tout le monde attend Jean-François Borras, c'est clair. Hein.
Et Karine Guéhet, quand même, c'est pas mal, en Charlotte. Voilà. Non, belle distribution, très belle distribution. On va donner un aperçu de cette production avec Jean-François Borras, un des airs les plus célèbres du Werther de Massenet, « Pourquoi me réveiller ?» Pourquoi me réveiller, air du Werther de Jules Massenet, chanté par Jean-François Borras, que vous pourrez retrouver sur la scène du Théâtre du Capitole avec Karine Dehaye et une très belle distribution du 20 au 2 juillet. C'est la fin de ce numéro de Mélomanie. Merci encore à mes amis Robert Pénavert et Serge Chosy d'y avoir participé avec tout leur savoir et leur enthousiasme. Et un grand merci à Patrick Abéjean et Stéphane Delinca d'en avoir été les invités d'honneur. Je rappelle qu'à bout de souffle, l'ensemble qu'ils dirigent tous les deux présente son spectacle musical Mistero Buffo, d'après la pièce éponyme de Dario Fo, au théâtre Jules Julien de Toulouse, c'est vendredi 14 juin à 20h30 et samedi 15 à 17h et à 21h. Vous pouvez en savoir plus en consultant le site de l'ensemble www.aboutdesouffle.com et vous pouvez réserver et acheter vos places en vous connectant à www.aboutdesouffle.festic.net. Vous pourrez aussi réserver vos places pour les concerts de l'été dont nous avons parlé tout à l'heure. D'autre part, concernant les 6 représentations de Werther au Théâtre du Capitole, notez qu'elles ont lieu les 20, 25, 28 juin et 2 juillet à 20h, ainsi que les dimanches 23 et 30 juin à 15h. Vous pouvez vous informer et réserver sur le site www.theatreducapitole.fr. Et puis je signale enfin les 2 concerts que donne l'Orchestre de Chambre de Toulouse avec le flûtiste Vincent Lucas à Saint-Pierre-des-Cuisines mardi 18 et mercredi 19 juin à 20h30 au programme des œuvres de Vivaldi, Bach et Scarlatti. Je vous invite à vous renseigner et à faire vos réservations en vous connectant au site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission qui est disponible en podcast et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité et je vous souhaite à tous une très bonne semaine musicale.